Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Cannibale et girouette, un homme aux 24 contradictions quotidiennes. Un homme fini, c'est son autobiographie, l'histoire du Christ, son œuvre la plus célèbre. C'est un intellectuel atypique, Giovanni Papini, autodidacte, une enfance consacrée à la lecture, mais une vraie boulimie. Un garçon, un homme ensuite, qui voulait embrasser l'ensemble des connaissances humaines, être une sorte de pic de la Mirandole. Giovanni Papini, l'un des écrivains les plus prolixes de la littérature italienne, nationaliste, qui se laissa séduire par le régime fasciste et qui finit par entrer dans le tiers ordre franciscain, sous le nom de Bonaventure. Alors, histoire du Christ ou histoire du diable et comment le diable excédera l'écriture. Une vie, une œuvre, Giovanni Papini par Catherine Soulard, première diffusion sur France Culture le 17 mars 1994.
Toute ma vie a été un éternel élan vers le tout, vers l'univers, pour ensuite retomber dans le néant, ou derrière la haie d'un jardin. Une succession d'ambitions énormes et d'abandons précipités. Je déteste la fidélité et la constance. Les chiens sont fidèles, je ne suis pas un chien, mais un loup. Les fourmis sont constantes, je ne suis pas une fourmi, mais une guêpe.
Une vie, une œuvre. Giovanni Papini, 1881-1956. Entre Dieu et Diable, les éclats d'un insurgé florentin. Par Catherine Soulard.
Je vous aime, homme, comme peu vous aime. Je voudrais vous rendre plus grand, plus heureux, plus pur, plus noble, plus puissant.
Il y a une espèce de petit autoportrait que j'ai retrouvé dans une anthologie de Papini qui a été publiée il y a une quinzaine d'années en Italie même. Il est intitulé « En guise d'introduction » et il dit « Voilà, on a donné de moi toutes sortes de définitions, toutes sortes de portraits. C'est courant dans le monde littéraire italien, mais moi, on m'a toujours défini comme un cannibale et comme une girouette. » Alors, cannibale, évidemment, ça renvoie à sa, à cette espèce de férocité qu'il avait souvent manifestée à l'égard de ses, je dirais, de ses confrères, mais ses confrères en écriture, contemporain ou non, d'ailleurs. Et girouette, c'est effectivement cette capacité à changer d'attitude, mais peut-être pas dans le sens le plus négatif du terme. Je veux dire par là que c'est quelqu'un qui rebondissait, qui se renouvelait complètement et qui, je crois, a essayé de le faire à plusieurs reprises de façon très systématique.
Oui, il revendiquait d'ailleurs ses élans. Il a dit « Laissez-moi mes 24 contradictions quotidiennes ».
Debo ricominciare da capo, rinascere. tornare, cioè alla matrice prima, alla patria. Finché sono stato soltanto un maniaco di cerebrale.
J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, comme homme et comme écrivain, mais toujours poussé par l'imagination et le sentiment, par naïveté et précipitation, jamais, jamais par calcul, intérêt, mauvaise volonté ou malice.
Il y a deux livres, enfin, qui m'ont marqué, comme ils ont marqué plusieurs générations.
François Lévy.
Le premier, c'est l'autobiographie que Papini publie en 1912, Un homme fini. Et ensuite, naturellement, l'Histoire du Christ, qui publie en 1921. Il est évident qu'entre ces deux livres, apparemment très différents l'un de l'autre, dans la mesure où le premier, cette autobiographie que Papini publie à 30 ans, relève encore d'une recherche intellectuelle et spirituelle qui n'a pas abouti. Et le deuxième livre qui consacre la conversion de Papini, il y a bien sûr des différences, mais il y a aussi des liens très profonds et très secrets. Alors d'abord, oui, cet intellectuel dont la conversion a été retentissante, mais surtout un grand intellectuel au sens moderne du terme, c'est-à-dire l'âme finalement des avant-gardes italiennes du début du siècle, et un formidable, si vous voulez, brasseur d'idées, philosophe, poète, essayiste, critique féroce et très souvent injuste. Donc c'est une personnalité qui a marqué non seulement les 15 premières années de la vie culturelle en Italie, mais également, je dirais, la vie intellectuelle jusqu'à sa mort en 1956.
Alors vous l'avez dit, Papini fut une des grandes figures de l'Italie intellectuelle du début du siècle, une des personnalités les plus brillantes de ce qu'on appela plus tard l'axe Paris-Florence, un chrétien à la fois hésitant et fougueux, un journaliste enthousiaste, un imprécateur à la Léon Blois, un écrivain prolixe puisqu'il publia plus de 60 ouvrages. Quels furent les débuts dans la vie de cet enfant terrible de la littérature italienne ?
Eh bien, cet enfant terrible, apparemment, n'avait rien pour réussir, dans la mesure où son enfance toscane, Papini est né à Florence, il y est mort aussi, n'a rien eu d'exceptionnel, si ce n'est, j'ose dire, la difficulté, une certaine difficulté à s'ouvrir, et une vie essentiellement par les livres. Voilà l'élément marquant, finalement, de son enfance. Donc, il a vécu essentiellement dans une bibliothèque, la bibliothèque paternelle, et plus tard, il a regretté cette absence de contact humain. Toujours est-il que dans le milieu simple où il est né, où il a grandi, rien ne semblait le préparer à ce rôle, enfin, qu'il a joué par la suite d'intellectuel que j'appellerais intellectuel atypique. Dans la mesure où Papini, en grande partie autodidacte, n'a jamais eu de carrière intellectuelle, entre guillemets, liée à des grandes maisons d'édition, du moins au début de son activité. Il n'a jamais été lié à des milieux universitaires contre lesquels il s'est plutôt insurgé. Donc, si vous voulez, une enfance, oui, consacrée essentiellement à la lecture, à la découverte aussi de cette campagne toscane qui, pour Papini, représente un pôle d'assurance, d'authenticité, de découverte de ses racines, comme il le dira plus tard. Mais enfin, ce qui est essentiel dans sa vie, c'est surtout la découverte des livres et le rêve prométhéen, absurde, de connaître toutes les sciences, d'embrasser l'ensemble des connaissances humaines pour fonder une nouvelle culture de l'homme.
Son université, ça a été la Bibliothèque nationale de Florence. Il y a d'ailleurs des pages tout à fait étonnantes dans son autobiographie où il raconte comment, d'abord tout petit, il avait une espèce de boulimie de lecture qui était quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Mario Fusco.
Cette famille d'artisans et d'artisans pauvres, modestes, pour qui la misère n'était vraiment pas un vain mot. Il a, par tous les moyens, essayé de lire, achetant des bouquins d'occasion, des bouquins dépareillés, etc. Puis, quand il a réussi à s'introduire à la Bibliothèque nationale, très jeune, il raconte qu'il n'avait même pas l'âge requis, alors ça a été une démarche proprement boulimique de lecture et très caractéristique d'un autodidacte qui veut tout englober, peut-être marqué par l'influence du positivisme, qui était à ce moment-là très fort et qui faisait croire ou qui estimait qu'après tout, on pouvait véritablement faire le tour du connaissable. Papine est jeune, et quand je dis jeune, autour de sa 20e année, peut-être même avant, c'est quelqu'un qui avait entrepris de s'intéresser à l'histoire universelle, de rédiger un commentaire complet de la Bible, etc. Il le raconte en disant que ça ne l'avait pas mené très loin. Effectivement, il s'est aperçu assez vite qu'il y avait des choses qui dépassaient ses forces. Mais ce qui est certain, c'est que son point d'ancrage, au début, ça a été l'histoire des idées, ça a été la philosophie, pour laquelle il a d'ailleurs manifesté une curiosité qui sortait tout à fait des goûts, des habitudes intellectuelles du moment. Parmi ces lectures du temps, il y a eu évidemment les pragmatistes, et en particulier William James, dont il a été certainement le principal interprète et introducteur en Italie, Stirner, qui l'a beaucoup marqué, mais Schopenhauer aussi, et Kierkegaard à un moment où on parlait pas du tout de Kierkegaard en Italie. Puis il y a eu Bergson. Alors, avec Bergson, ça a été beaucoup plus loin. Il a eu une correspondance personnelle avec Bergson. Je pense qu'il l'a rencontré lorsqu'il est allé à Paris. Il est allé à Paris plusieurs fois. Pas
oui.
très souvent.
Et il l'a rencontré à Genève aussi.
Voilà,
en 1904,
aussi.
Oui.
Et il y a un certain nombre de lettres sur cette relation intellectuelle. Il a été certainement un relais intellectuel tout à fait important en Italie. Donc, dans cette première revue qui s'appelait Leonardo, qui a duré 4 ans et demi à peu près, puis dans les autres. Et c'est effectivement en direction d'une réflexion de type philosophique qu'il a commencé à travailler. Je dirais que l'écriture est venu un peu par surcroît, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui au départ se considérait comme un écrivain proprement parlé, enfin je veux dire comme un homme de littérature, comme un poète. C'est quelque chose qu'il a peu à peu découvert et à quoi il s'est totalement identifié par la suite.
Per questo ho voluto rifare conoscenza col mio paese e intanto ho riscoperto meglio anche l'anima mia. I dottori ordinano ad alcuni malati l'aria nativa. Per un caso felice, quel convalescente che io sono è tornato a riempirsi il petto dell'aria paesana e se n'è trovato bene.
En 1904, Giovanni Papini a 24 ans. La philosophie tient une place essentielle dans sa vie. Il vient en 1902 d'écrire une apologie de la philosophie, la plus aristocratique et la plus intéressée des activités qui soient. Et en 1904, il se rend au Congrès international de philosophie de Genève où il présente une communication sur les extrêmes de l'activité théorique. Il y rencontre Bergson, Boutroux, Pareto, William James. Et en 1906, il publie Le Crépuscule des philosophes, qui est une critique de la philosophie, en particulier des philosophes allemands. Et puis, tout en continuant à prendre des positions philosophiques dans différentes revues comme La Voce, La Serba, en 1912, dans Un homme fini, finalement, il y a une espèce de rupture avec la philosophie qu'il qualifie de nuque ne pouvant féconder la vie. Et il s'en détache un peu. Alors, François Livonnet, vous êtes professeur de philosophie. Est-ce que Giovanni Papini ne vous semble pas un philosophe un peu étrange? Est-ce qu'il est un philosophe, d'ailleurs?
À quoi reconnaît-on un philosophe? C'est toute la question. Papini lui-même, d'ailleurs, brouille un peu les cartes, puisque Papini ne veut pas ressembler au philosophe qui le précède. Par conséquent, il veut être un philosophe d'un type nouveau. D'ailleurs, il le dit, il faut de nouveaux habits à la philosophie. Ce sont des remarques, d'ailleurs, qui ne sont pas sans rappeler celles de Nietzsche. Vous parliez du crépuscule, d'un crépuscule l'autre. À quoi reconnaît-on finalement des textes philosophiques? Est-ce que ce sont des textes qui sont écrits par des philosophes? Là aussi, c'est un peu simple, on risque d'avoir affaire à être au rouet, comme dit l'autre. La seule critique qui vaille, c'est pas une critique externe, c'est une critique interne. Un texte philosophique, c'est un texte qui fait valoir une exigence rationnelle, une exigence de fondation. Or, chez Papini, même dans les textes prétendument philosophiques, c'est un écrivain qui raisonne, qui pense par image. Et ça, on pourrait faire allusion, par exemple, à un vieux texte de Platon dans lequel Socrate fait une intervention très brillante et très belle, et puis se reprend en disant « Non, là, je m'égare ». Je n'ai pas à parler par images. La philosophie est en rupture avec les images. Donc de ce point de vue-là, ce crépuscule n'est pas le crépuscule des icônes, si je puis dire. Les philosophes en Italie à l'époque, ce sont des gens comme Grotius, qui sont marqués par la tradition hegelienne, que justement Giovanni d'ailleurs n'aime pas. Est-ce qu'il ne critique pas cette tradition sans la nommer en critiquant Hegel et l'hegelianisme? C'est la philosophie de Gentile, c'est-à-dire une philosophie qui sera idéologiquement assez proche d'un nationalisme intégral, qui se nourrira de Sorel, etc. Ou alors c'est Gramsci, c'est-à-dire une philosophie qui veut transformer le monde. Donc on peut trouver à la limite chez Papini des éléments appartenant à toutes ces traditions. Il y a quelque chose de protéiforme, c'est ce qui fait à la fois le charme de Papini et la difficulté de simplement le recevoir comme un philosophe entendu de façon orthodoxe. Parce qu'il le dit lui-même, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe au XIXe siècle? C'est un professeur. Et il se moque des professeurs, à commencer par Kant, hein, quand il parle de ce philosophe qui a ses 1450 thalers par mois et ses 30 heures de cours par semaine, et son itinéraire de Königsberg, simplement contrarié par la Révolution française, etc.
Et de Nietzsche aussi?
Et de Nietzsche, dont il se moque très curieusement, parce que là, il n'aborde pratiquement pas sa pensée, ou il la réduit, il la simplifie, simplement, à mon avis, plus qu'une critique, il s'en démarque. Parce qu'il y a un géant, bon, et ce géant, il en parle peu ou mal. Ce qu'il dit de la philosophie allemande, ça se trouve ailleurs. Sa critique n'est jamais originale. Ce qui est assez significatif, c'est que la critique de l'œuvre passe par un portrait corrosif de l'homme. Et au fond, c'est par l'homme qu'il atteint l'œuvre. Ce qui est évidemment très très peu philosophique. Ce n'est pas une exigence d'universalité, c'est au contraire, à partir d'un portrait particulier, on va dresser un portrait lamentable d'une pensée qui a ses ratés, le formalisme kantien, la dialectique hegelienne qui n'explique rien, etc. Il y a un constat, finalement, d'une philosophie qui est à la fois ambitieuse, prétentieuse, mais qui est en dernier ressort vide. Donc il y aurait quand même une sorte de ronronnement, et ce ronronnement est un ronronnement qui est presque scandaleux par rapport au bruit du monde, par rapport à l'urgence quasi catastrophique, finalement, du cours de l'histoire.
Le pilote aveugle, théâtre de l'Athénée Jouvet, avril 1993. François Martouret lit des écrits de Giovanni Papini. Mise en scène, Catherine De Witt.
L'histoire universelle, transformée en drame, l'infernale tragédie, la divine comédie, conduite, accomplie et agrandie jusqu'à l'impossible, même de la représenter sur un théâtre grand comme un désert, avec de vraies montagnes pour décors, et avec des paroles qui auraient résonné terriblement comme celles de Dante, et les figures auraient semblé de Michel-Ange, et la musique eût été plus divine que celle de Wagner. J'aurais voulu le vent comme souffleur, la mer pour orchestre des races entières pour cœur, et une langue nouvelle, parfaite, formidable, claire.
Est-ce un théologien? Bon, au plan théologique, il y a d'abord des théologiens très bien qui ont montré sa légèreté. Vous savez d'abord que son ton est assez peu théologique. D'ailleurs, il éprouve le besoin de doubler la théologie par une diabologie, comme si la diabologie n'avait pas sa place dans la théologie. Il y a donc un dépassement de la théologie. Notons d'ailleurs que lui-même envisageait un dépassement de la philosophie vers une métasophie à la fin de sa vie. Donc il y a une sorte de diabologie. Alors le problème, c'est de savoir si cette diabologie est une métathéologie. Si c'est une métathéologie, là évidemment nous sommes en pleine hérésie. Bon. Est-ce un idéologue? On sait que ses rapports finalement avec la politique ou avec l'idéologie sont des rapports qui sont à la fois extrêmement ambigus et puis dégarements. Bon, ses rapports avec Mussolini sont des rapports d'abord d'adhésion idéologique ou des rapports de fascination réciproque ou finalement des rapports très narcissiques. Là, il y a un côté très méridional. Il y a un côté gloriole. Il y a un côté on s'échauffe en parlant. Bon, on tape du pied. Il y a ce côté-là. Au plan théologique, on sait évidemment que son dernier texte, enfin son texte important sur le diable, c'est un texte extrêmement ambigu. Bon, est-ce un esthète au sens, disons, d'un esthéticien, un théoricien de l'art? Là aussi, on peut s'apercevoir qu'il ne produit pas une théorie de l'art. Que ses rapports, par exemple, avec le futurisme italien sont des rapports qui tiennent davantage de la rencontre circonstancielle. Là aussi, peut-être, hein, des fascinations réciproques. Il y a un aspect, finalement, assez mondain, parfois, chez Papini.
Oui, et puis des enthousiasmes qui tiennent le temps d'une fascination. Oui. Parce que le futurisme, c'est pareil, ça durera 4 ans, et puis ça passe. Tout passe très, très vite chez Papini.
Oui, tout passe. Et on se demande si le mécanisme intellectuel, le mécanisme théorique qui domine tout cela, c'est pas une sorte de système analogique. Par exemple, les rapports entre le futurisme et Papini, curieusement, passent par le pragmatisme. C'est-à-dire comme si l'action, telle que la pense James, et la vitesse, la rapidité, telle que la pensera le futurisme, avaient un rapport. Ce rapport, c'est Papini. Il est dans Papini, dans la construction d'une œuvre, dans les fantaisies de Papini, qui s'alimente tout ce qu'il peut trouver. Et le fascisme sera une de ces choses dont il s'alimentera. Et ça, à mon avis, Papini, il faut l'inscrire dans cette tradition d'écrivain du renouveau catholique. Moi, je pense à Blois, qui fera la même chose. Je parle pas simplement Blois comme luciférien, entre guillemets, du salut par les juifs, hein, mais simplement Blois dans sa manière même d'utiliser la tradition, d'utiliser la littérature, d'utiliser l'art. Il y a en perpétuellement une effraction. Et donc, c'est une double rupture. Rupture avec les laïcs et rupture avec les religieux, à mon avis, ça se fait par un retour aux Écritures, mais par un retour qui va être le fait d'une lecture littéraire, d'une lecture artistique. Et là, il y a la revendication d'une exégèse symbolique qui va conduire d'ailleurs aux dérives les plus invraisemblables, aux drôleries les plus invraisemblables, mais qui va nourrir aussi cette œuvre, qui nourrira l'œuvre de Blois, qui nourrira l'œuvre de Claudel, qui nourrira l'œuvre de Bernanos. Il y a là un trait commun qui est finalement d'excéder des limites, des classifications, pour essayer de produire une sorte de catastrophe culturelle, qui soit en écho avec la catastrophe historique que Blois attendait, et disons un peu avec un peu d'ironie, que Papini attendait aussi, quand elle est passée, il ne l'a peut-être pas vu aussi. Bon, il n'a peut-être pas vu que la Shoah était une catastrophe. Bon, on a l'impression que dans l'après-guerre, il attendait encore la catastrophe, sans se rendre compte que la catastrophe, il était dedans, d'une certaine façon.
Il était d'une origine tout à fait non-croyante. Il a peut-être été baptisé, j'en sais rien.
Oui, il a été baptisé par sa mère en cachette.
Voilà. Lui-même s'est défini comme un athée tout à fait convaincu. Et en même temps, il y a une interrogation justement religieuse à partir de ses lectures de l'Écriture, des textes de la Bible, qui, dans L'Homme fini en tout cas, n'aboutit absolument pas à une adhésion au christianisme. Papini s'est converti d'une manière assez spectaculaire. Il en a parlé de manière tout à fait officielle. Enfin, c'est quelque chose. Il s'est par la suite identifié avec ce personnage d'intellectuel chrétien, catholique, très engagé. Mais plus tard, hein, je crois que c'est en 19, après à la fin de la Première Guerre mondiale.
Mais il s'est converti de façon quand même assez progressive. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il habitait depuis très longtemps. Il a accepté de se marier religieusement avec sa femme en 1907. Et puis, après, il y a eu la première communion de ses deux petites filles. On a l'impression que c'est après. Et il disait qu'il faisait les gestes de la foi, un peu comme Pascal, en attendant que ça vienne un peu.
Mais en tout cas, le fait est que s'il y a eu rencontre de ce point de vue-là, ça a été quelque chose de total, de définitif. Et c'est quelque chose de relativement peu courant, je dirais, dans le panorama de la des lettres et de la pensée italienne de ce siècle. C'est quelque chose qu'on mesure mal quelquefois hors d'Italie. Le fait que, par exemple, dans ce pays à dominante catholique très évidente, et pas simplement parce qu'il est aussi qu'il abrite le Saint-Siège, le nombre d'intellectuels, par exemple, le nombre d'écrivains d'inspiration chrétienne, par exemple, au cours de ce XXe siècle, est relativement limité.
Quand j'étais sur le point de me jeter dans les bras d'un seul amour, mon donjuanisme cérébral me tirait toujours en arrière. Il me fallait l'infini, le grandiose, la totalité des choses, l'immensité des temps, la procession des siècles et des volumes. Je croyais de toute mon âme que j'avais une mission à remplir en ce monde, une mission à moi, une grande mission. Chaque jour, il me semblait être appelé à faire ce que les autres ne faisaient pas, transformer de but en blanc les hommes et les choses. Je voudrais devenir le guide spirituel de la jeune, très jeune et future Italie.
Qu'est-ce qu'il va appliquer alors après toutes ses connaissances? Il va commencer à écrire?
Il va commencer par fonder un certain nombre de revues confidentielles avant de mettre au point avec Giuseppe Prezzolini le projet puis la réalisation de cette grande revue au titre emblématique Il Leonardo, donc Léonard de Vinci, qui embrasse plusieurs domaines du savoir. Et cette revue est très importante dans la culture italienne de 1903 à 1907 dans la mesure où il s'agit d'une revue tout à fait hostile aux milieux intellectuels universitaires. L'une des croisades de Papini et de Prezzolini est contre la culture positiviste. Avant de se saborder en 1907, Papini et Prezzolini estimant que leur rêve, désormais ne pouvait plus être réalisé, et il ne voulait surtout pas d'une revue qui s'installa et qui devint comme les autres revues littéraires. Le sens de l'aventure ayant été perdu ou égaré en route, il préfère fermer la revue et mettre au point d'autres projets.
Oui, c'était une revue très insolente qui était contre tout système et que Benedetto Croce avait reconnu.
Oui, à son corps défendant, dans la mesure où, paradoxalement, cette revue florentine, dont l'audience n'a pas été exceptionnelle au début, naît la même année où Croce fonde Critica, qui est la grande revue très officielle qui va orienter la critique et la réflexion culturelle italienne pendant de longues décennies. Papini aura des mots très durs sur Croce, très durs puisqu'il relève d'une veine polémique qui a été la sienne. Donc, il avait stigmatisé la philosophie de Croce un tout petit peu plus tard en l'appelant une sorte de philosophie des synonymes qui n'apportait rien à la connaissance intellectuelle, mais l'enrichissait, les synonymes esthétiques égale intuition, ainsi de suite.
Entre Leonardo et la Serba, il y a eu aussi la Voce et l'Anima.
Oui. Naturellement, ces deux revues que vous venez de mentionner n'ont pas joué le même rôle. En ce sens que la Voce, qui naît en 1908, et que fonde le grand ami de Papini, Giuseppe Prezzolini, a joué un rôle extraordinaire en Italie, afin que l'on pourrait comparer à la limite celui qu'a joué la Nouvelle Revue Française. Et à mon avis, l'influence de la Voce en Italie a été encore plus grande. Alors, Papini, naturellement, a été l'un des collaborateurs fidèles, en dépit de certaines querelles avec Prezzolini, de La Voce. La Voce n'a pas été d'emblée une revue littéraire. Ce n'est qu'à partir des années 10 qu'elle s'est ouverte à la littérature. Et il y a lieu de parler véritablement d'une génération de poètes et d'écrivains de La Voce, alors qu'il n'y avait pas lieu de parler d'une génération d'écrivains de Leonardo, et pas non plus pour l'anima. C'est un point de repère essentiel, une sorte de culture de l'âme, de culture aussi littéraire, très spécifique, qui aura des choix, enfin que nous connaissons au plan formel, donc le choix d'une mesure brève, de poèmes en prose, ou bien du récit autobiographique, mais d'une littérature, en tout cas, qui a des visées morales, qui n'est absolument pas divertissement ou évasion.
C'est à ce propos-là qu'on pourrait parler de l'axe Paris-Florence, et par cette génération d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes.
Les contacts les plus vitaux, les plus féconds, qui s'établissent entre l'avant-garde florentine et l'avant-garde française, commencent lorsque le futurisme milanais de Marinetti obtient l'adhésion, l'espace de quelques mois, il est vrai, des intellectuels florentins. C'est-à-dire à partir du moment, en 1913, où Papini et Soffici adhèrent au futurisme et transforment la revue La Cerba en organe officiel du futurisme. C'est à ce moment-là que se situent les contacts les plus féconds entre les deux avant-gardes et que naît ce projet auquel vous aviez fait allusion d'un axe culturel Paris-Florence dont la réalisation première aurait dû être la publication d'une revue commune. En réalité, il n'en a été rien dans la mesure où la guerre a malheureusement empêché la réalisation de ce projet. Mais il y a donc deux aspects. D'une part, un futurisme italien qui devient plus crédible dès lors qu'il a l'aval de Papini et de Soffici, et d'autre part, cette collaboration que Apollinaire, Max Jacob, Romy de Gourmont et d'autres encore donnaient à la revue florentine La Cerba, au nom de leur amitié pour Soffici et pour Papini. Donc la première découverte, si vous voulez, du milieu parisien remonte pour Papini à 1906. C'est à cette occasion qu'il rencontre personnellement un certain nombre de philosophes, Boutroux, Bergson, etc., qui le revoit Gide, qu'il avait déjà rencontré, qui fait la connaissance de Peggy, de Sorel, et ses voyages à Paris sont réguliers.
Apollinaire était très lié avec Canudo, à qui Papini a succédé au Mercure de France.
Michel Descodins.
Et Canudo était un homme très abondant, qui avait la plume à la fois en italien et en français d'une facilité extraordinaire, et qui fournissait au Mercure de France très certainement plus de chroniques que celui-ci ne pouvait en publier. Au contraire, dès l'intervention de Papini, qui donc a succédé à Canudo, Apollinaire s'est un peu méfié. Et on le voit dans une lettre à Soffici dire « Je me méfie un peu de la ponctualité de Papini ». Effectivement,
il avait pas tort.
Quand à partir de 1913, on feuillette le Mercure de France, eh bien on s'aperçoit que Papini est beaucoup plus irrégulier que ne l'était Canudo. Ne parlons pas des années de guerre où évidemment les problèmes étaient différents. En tout cas, Apollinaire, curieux, vous savez, de toutes choses, de tous hommes. Je crois que c'est un des traits fondamentaux de son caractère, que sa disponibilité à tout et à autrui. Et alors Apollinaire, eh bien, se trouvant devant quelqu'un qu'il connaît un peu, en qui il devine un talent certain, a le souci, bien sûr, de le publier, et lui propose d'écrire dans les soirées de Paris.
Et alors, qu'est-ce qu'il faisait au Mercure de France, Papini ? Il faisait un état de la littérature italienne ?
Voilà. Il donnait des informations sur la littérature italienne, malheureusement, à période très irrégulière. À partir de novembre 1913. Quand je dis période très irrégulière, voudrais dire que le Mercure, à ce moment-là, paraissait tous les 15 jours et qu'on trouve une chronique de Papini tous les 6 ou 7 mois. Peut-être la critique, en fin de compte, et surtout la critique dans une revue étrangère, lointaine, n'était-elle pas le premier de ses soucis ? Vous savez combien il a été un journaliste abondant à cette époque-là.
Oui, oui, mais enfin, il adorait la France, donc il devait être très fier de collaborer au Mercure.
Certainement, il a joué un rôle important dans les relations entre l'Italie et la France à ce moment-là, bien avant de collaborer au Mercure, dès les premières années du siècle, on le voit en correspondance avec Gide. Et on le voit, je ne dirais pas exactement quémandeur, mais enfin soucieux d'obtenir de Gide des informations, des confidences sur la France. On sait également qu'il a été en correspondance avec Romain Rolland. Il a certainement été, parmi les Italiens de sa génération, un de ceux qui a eu le plus d'antenne vers ce qui comptait dans la littérature française. Il a écrit un article sur Rémy de Gourmont aussi.
Porte les yeux où tu voudras, c'est le néant partout. Oui, le néant partout, dans les plis de l'idéal, dans les méthodes, dans les systèmes, au fond des désirs, au terme des plaisirs. Nous sommes trop intelligents pour croire à l'intelligence, trop grands pour nous sacrifier aux grandeurs éphémères. L'art seul nous reste. Tout bien considéré, l'art est, pour un esprit délicat, la plus noble façon de tuer le temps. Tu ambitionnes d'être l'apôtre, le prophète, la lumière des générations, que sais-je ? Laisse tomber, crois-moi. Sois poète.
Il y a une rencontre quasiment mythique, enfin, pour les lettres italiennes, pour la culture italienne. Elle se situe en 1914. Lorsque les futuristes florentins Papini, Soffici et Palazzeschi rencontrent leurs homologues des avant-gardes françaises, et ils rencontrent également à Paris le grand poète Giuseppe Ungaretti. Alors, la grande idole d'Ungaretti à cette époque est Papini. Pourquoi Papini ? Parce que il lui apparaît, ce en quoi il avait parfaitement raison, comme l'intellectuel, donc à la fois le poète, l'essayiste, le prosateur, le philosophe, le plus original, le plus novateur de l'Italie contemporaine, le plus en accord aussi avec les orientations des avant-gardes françaises. Et le rêve d'Ungaretti dans ces années, donc nous sommes dans les années 13 et 14, est de traduire lui-même, donc personnellement Papini en français, et de le faire connaître, plus qu'il n'était connu, en France. Papini a découvert Ungaretti, puisque en janvier 1917, il publie le premier compte rendu déterminant pour le succès du livre, le compte rendu de la plaquette de poèmes qu'Ungaretti, volontaire sur le front italien, avait publié en 1916 Le port enseveli. Et qui plus est, Papini présente au public français et européen qui lisait le Mercure de France, en mars 1917, Le port enseveli, par un article qui n'est pas du tout une reprise enfin, de celui qu'il avait publié dans Il resto del Carlino, de Bologne. Eh bien, c'est un article original qui tient compte justement des spécificités du public français et européen auquel il s'adresse et qui lance, pour ainsi dire, Ungaretti dans le milieu intellectuel et littéraire, surtout français.
Dans ce milieu florentin, à la revue La Cerba, justement, qui est fondée en 1913, eh bien, Papini a joué un rôle d'une certaine importance. Et il y a eu comment dire, une espèce de d'éclat de liberté qui s'est traduit chez lui par des manifestations telles que ces manifestations de provocation que les futuristes savaient si bien organiser. Il a en particulier en 1914 publié avec des collaborateurs un Almanacco Purgativo, l'almanach purgatif, qui a fait la jubilation d'Apollinaire. Papini a écrit à Apollinaire parce qu'il a appris qu'Apollinaire voulait faire un article sur lui. Et Apollinaire lui répond « J'ai en effet l'intention d'écrire quelque chose sur vous, mais plutôt d'un point de vue anecdotique que d'un point de vue critique. Je lirai volontiers les livres que vous m'annoncez, mais j'aurai encore un plus grand plaisir à faire connaissance avec vous. » Je suis très touché de la sympathie que vous avez pour moi. Elle diminuera peut-être quand vous me connaîtrez. Je suis de relations difficiles et pleines d'imprévus. Quand nous parlons avec Soffici, la discussion, pour ma part, devient presque une dispute. Nous ne sommes jamais du même avis. J'oubliais de dire que les renseignements anecdotiques que je demandais sur vous étaient destinés à ma rubrique du Mercure pour vous présenter aux lecteurs de cette revue où vous remplacez l'immortel et inénarrable Canudo. Poussez, je vous prie, Soffici, de tenir sa promesse d'une lettre d'Italie pour les soirées, dont service vous est fait, cette promesse confirmée par une note de La Cerba. Et vous, si vous voulez bien, envoyez-moi aussi quelque chose et au besoin des petites notes vraies ou fausses sur ce qui se passe en Italie.
Je ne veux pas être mis de côté en cinq secs. Je ne veux pas être foulé aux pieds sans protester. Et pour vous, spécialement pour vous, surtout pour vous, j'ai écrit cette histoire dramatique de mon esprit. Je suis là, je me suis ouvert et déchargé. Ce n'est pas là une œuvre d'art, c'est une confession devant moi et devant les autres. Je remets dans vos mains mon esprit, j'étale le dossier et la défense. Sur ceci et par ceci, je veux être jugé. Je continuerai d'agir, de travailler avec vous, mais une période de ma vie s'est fermée. Et je veux que l'on tienne compte de cet épanchement désordonné en 50 chapitres. Et si, après m'avoir ausculté, vous croyez vous-même, en dépit de mes arguments, que je suis vraiment un homme fini, vous devrez au moins confesser que je suis fini parce que j'ai voulu commencer trop de choses et que je ne suis plus rien pour avoir voulu être tout.
Papini s'est marié en 1907 et il a publié un livre extraordinaire, très très émouvant, qui est Un homme fini, en 1912, dans lequel il semble fatigué de la philosophie et de la vie un peu. Hein.
Oui, il publie ce livre extraordinaire et ce qui est étonnant, et pas du tout fortuit, c'est que cette année 1912 est l'année où bien des écrivains de la Voce publient leur autobiographie. Et en fait, on a parlé à juste titre, non pas d'une autobiographie au sens classique du terme, où un auteur retracerait son cheminement avec un minimum, si vous voulez, de repères chronologiques. En réalité, ces écrivains de la Voce, Papini en tout premier lieu, publient des livres qui relèvent plutôt de ce qu'on appelait le mythe de l'autobiographie. En ce sens qu'il s'agit, où L'homme fini en est vraiment l'exemple le plus probant, d'une tentative d'esquisser le cheminement de toute une génération. Voilà pourquoi, dans Un uomo finito, il y a à peine deux ou trois dates, si je m'abuse, hein, trois, me semble-t-il, et Papi n'a fait aucune concession, disons, à la chronique quotidienne, aux aspects qui auraient pu être les plus intéressants pour le grand public. Il n'étanche nullement une soif de curiosité sur sa personne. Livre émouvant, vous aviez dit, à juste titre, parce que ce livre que Papini organise en 50 chapitres comme une sorte de symphonie, enfin il utilise naturellement des termes qui sont des termes empruntés à la musique, esquisse la ligne de fait d'un rêve prométhéen, celui de tout savoir, de devenir le garde-dieu, et également dresse le bilan d'un échec. D'un échec intellectuel, d'un échec humain, mais ce bilan d'échec n'est pas le dernier mot du livre, car le titre lui-même est un titre ambigu, Un uomo finito, un homme fini, veut dire, oui, quelqu'un qui en a assez d'un certain genre de vie intellectuelle, une vie desséchante, mais Un uomo finito est aussi un homme accompli, quelqu'un qui a 30 ans, est parfaitement conscient de sa force, et qui veut montrer à la culture italienne qu'il est encore capable de jouer tout à fait le premier rôle. Donc un livre qui est extrêmement attachant et dans lequel on peut lire en filigrane, au travers des grandes inquiétudes intellectuelles existentielles de Papini, des annonces évidemment de sa conversion. Pour ne citer qu'un autre titre, Scipio Slataper publie Il mio Cars, le Cars mon frère, et nous retrouvons, même si l'écriture est tout à fait différente, mais les mêmes grands mythes que nous voyons parfaitement actualisés dans Un uomo finito, un homme fini, c'est-à-dire la recherche de racines, la recherche d'un contact plus vrai avec la réalité. Ce que Papini montre merveilleusement dans l'un des derniers chapitres, où il parle du retour à la campagne toscane. Mais un retour qui est solidaire d'une redécouverte de la tradition toscane, de la tradition littéraire, de la tradition artistique. Donc, il se sent solidaire d'une région, d'un peuple, et surtout, il se sent solidaire d'une histoire de plusieurs siècles, qui depuis les Étrusques jusqu'au XIXe siècle, en passant par la Renaissance, fait de la Toscane un lieu privilégié pour une culture de l'âme, pour reprendre un terme papinien, mais aussi pour une existence qui ne soit pas une existence en bibliothèque.
Oui, il dit dans ce livre, la campagne m'a formé autant que les bibliothèques. Et c'est vrai que dans tous les écrits de Papini, on sent ce désir de réveiller l'Italie, hein, de réveiller les hommes, de les changer, et qui participe à la fois d'un grand enthousiasme et d'une douleur très profonde dans ce... parce qu'il se rend compte qu'il peut pas tout connaître, hein. C'est un livre qui est vraiment très très émouvant à ce
titre-là. Oui, il y a toujours cette blessure, une blessure que l'écriture met à nu, la blessure de l'homme qui est conscient qu'il ne pourra jamais atteindre cette connaissance absolue de l'univers, et par conséquent, il sait que son action va être limitée malgré tout. Donc c'est une année de crise, une crise que rachète, enfin, cette réussite éclatante d'un homme fini, un homme finito. Et juste après, la vitalité de Papini va se manifester une fois de plus par la fondation de l'Acerba, revue de combat pour l'avant-garde littéraire, revue très nationaliste qui prône l'entrée en guerre de l'Italie à côté de la France. Donc un homme qui s'accorde un temps de réflexion, qui dresse ce bilan très désabusé et en même temps très lucide, mais qui part pour un nouveau combat intellectuel.
Pourquoi avoir pour les hommes tant de compassion déplacée et employer tant de génie pour les endormir, les amuser, alors qu'il serait tellement plus beau et plus périlleux de les éveiller à force de cris, de les mettre en face de l'obscurité, de les pendre la tête en bas dans l'abîme, de les forcer ainsi à se redresser, à se trouver eux-mêmes, à devenir plus douloureux mais plus grands devant l'univers? Au diable, les petites histoires, les légendes, les tragédies, celui qui s'ennuie n'a qu'à jouer aux cartes ou se jeter à la mer. En un monde où tous ne pensent qu'à manger et à faire de l'argent, à se divertir et à commander, il est nécessaire qu'il y en ait un par moment qui rafraîchisse la vision des choses, qui fasse sortir l'extraordinaire dans les choses ordinaires. Il faut un veilleur de nuit.
En 1933, Giovanni Papini publie Dante vivant. Le Premio Firenze est offert à Mussolini pour sa Vita di Arnaldo. Mais celui-ci le refuse et propose qu'il soit attribué à Papini pour son Dante vivant. Papini accepte et se laissa arracher du même coup son adhésion au régime.
Il y avait, je pense, une rencontre qui était assez prévisible, finalement, entre le gouvernement de Mussolini, d'une part, et un homme comme Papini. Effectivement, on aurait pu imaginer que, pour diverses raisons de dignité, d'indépendance d'esprit, il récuse le prix, cette espèce de, comment dire, d'inféodation au pouvoir politique. Il n'en a rien été. Je pense qu'il a été flatté d'être considéré, de recevoir un prix prestigieux, etc. Et ça s'est confirmé par la suite, puisqu'il est entré dans cette Académie d'Italie, Académie littéraire, que Mussolini avait inventée sur le modèle de l'Académie française, et dont on fait partie un certain nombre de personnalités de premier plan, parmi lesquelles on peut rappeler Pirandello. Je ne suis pas sûr que l'adhésion de Papini au fascisme ait été quelque chose de très intense, de très profond. je ne crois pas qu'à ce moment-là, il était sur des positions qui étaient très proches de celles que défendait le gouvernement de Mussolini. Je serais curieux de savoir, ce qu'a écrit Papini, s'il a écrit quelque chose, par exemple, au moment de la promulgation des lois raciales, qui ont été décidées sur, évidemment, le modèle et sur l'incitation des Allemands.
Et alors là, il a réagi au moment où les lois raciales ont été promulguées en Allemagne, quand l'Italie n'était pas encore alliée à l'Allemagne. Mais quand elles ont été promulguées en Italie, il n'a rien dit. Mais en revanche, quand on lui a proposé le poste de Momigliano, il a refusé le poste par égard pour Momigliano.
Momigliano, qui était un historien alors, juif.
Voilà.
Non, ce qui est, me semble intéressant dans la deuxième partie ou la troisième partie de la vie de Papini, si vous voulez, c'est de dire après cette parenthèse des années de la guerre même qu'il a vécu un peu isolé. Il y a dans son journal des pages où il raconte comment il était replié en nombrie et vivant dans une espèce de, là encore, de misère qui était largement répandue en Italie à ce moment-là. C'était une époque épouvantable. Par la suite, la guerre finie, lui retrouvant Florence, est resté à la fois un personnage qui occupait une place assez considérable, mais qui, de toute évidence, percevait autour de lui comme un retrait des lecteurs, de l'intérêt de la critique en ce qui le concernait. Enfin, il était de plus en plus isolé, certainement. C'était un homme du passé, c'était un homme d'une autre époque. Et même s'il continuait à publier, je crois qu'il avait assez nettement le sentiment que d'autres courants, d'autres goûts avaient pris le pas. Alors d'autre part, ce qu'il faudrait rappeler peut-être aussi, c'est que cette fin de vie pour lui, ces années qui ont suivi 50 jusqu'à sa mort en 56, ont été des années d'une sorte de calvaire personnel, parce que il a été pendant plusieurs années extrêmement malade, c'est-à-dire que il était paralysé, presque totalement paralysé, et pratiquement réduit au mutisme. Il grommelait, il arrivait à grommeler, et c'est sa petite fille Anna qui était son interprète. Elle était la seule à être capable de percevoir ce qu'il voulait dire, et c'est à elle, et il l'a fait savoir, qu'il doit d'avoir pu continuer à s'exprimer, je dirais, par l'écrit. Parce qu'elle lui prêtait à la fois son oreille et sa main, et c'est elle qui...
Et je crois qu'il dictait lettre par lettre.
Absolument, absolument, absolument. C'est quelque chose à la fois épouvantable. Et c'est une situation qu'il a affrontée avec un très très grand courage. Je crois que là, il faut reconnaître cette dignité extrême qui a été la sienne pendant ces affreuses dernières années de sa vie.
Et puis il était aveugle en plus.
Il était en plus aveugle, oui, ça a été vraiment affreux.
Ce qui est curieux, c'est en lisant Un homme fini, de voir qu'il avait prédit ça. Il avait dit, à 30 ans, il avait plus ou moins prévu cette fin. Il a dit, je mourrai soit paralysé, soit aveugle.
Oui. C'est, absolument, c'est absolument.
Une curieuse intuition.
Hein. Oui, absolument.
Giovanni Papini est présenté officiellement par ses biographes et d'ailleurs par lui-même comme un bon mari, un bon père, un formidable grand-père. Et voilà que dans votre livre, on découvre une liaison, mais plus qu'une liaison, vraiment une passion qui va durer même pas une année, l'année 1912, entre donc Papini, qui était déjà marié depuis 5 ans avec une jeune paysanne de Bulciano, et cette femme extraordinaire qui est Sibylla Leramo.
Donc Sibylla Leramo, en 1912, avait 36 ans. Elle était extrêmement connue en Italie et dans l'Europe entière pour un livre qui est Une femme. C'était son autobiographie qu'elle avait publiée au début du siècle, donc il y avait plus de 8 ans. Et dans cette autobiographie, elle racontait essentiellement deux événements. Son viol, elle a été violée par son mari, avant son mariage bien entendu, et elle a épousé son mari pour pouvoir sauver l'honneur, et l'abandon de sa famille, ce qui a eu un effet absolument considérable dans le mouvement des femmes. Donc elle était une figure intellectuelle de premier plan. Et elle venait de rompre avec Cena en 1912. Elle est complètement perdue. Elle s'installe à Florence. Et là, elle est contactée par un jeune écrivain qui dirigeait à ce moment-là la Voce, qui est Scipios Latapert. Et c'est un Triestin. Et c'est Scipios Latapert qui l'a mis en liaison avec Giovanni Papini, qui travaillait à la Voce également et qui a pris la direction de la Voce après Scipios Latapert. Et donc, ils ont été réunis pour des raisons intellectuelles. Ils avaient des profils semblables. Elle-même avait donc eu une part active dans la direction d'une revue. Et ils étaient très proches intellectuellement, extrêmement éloigné physiquement, lui étant d'une laideur assez exceptionnelle, il faut le dire, enfin, c'était absolument un monstre, et elle était d'une beauté absolument remarquable. Et ils se sont rencontrés le 18 janvier, on en a des traces, le 18 janvier 1912, et le 3 février, on a d'autres traces de textes de Sibylla, où elle dit qu'elle a passé une nuit de larmes parce que Papini ne l'a pas rejointe, et ça va être un bouleversement énorme dans la vie de Papini, qui était donc marié, comme vous l'avez dit, qui avait deux petites filles, et qui ne prévoyait absolument pas une passion de cette envergure. Sibylla Leramo était une mystique de la sexualité. Elle imaginait que les rapports sexuels étaient des rapports de fusion et de transfiguration, et donc il n'y avait pas du tout pour elle de rupture entre le fait que Papini était un mystique, entre guillemets, et cette passion charnelle. Elle voyait cet homme marié complètement enferré, englué dans un rapport conjugal dans lequel il ne s'épanouissait pas parce qu'il était, il vivait avec une femme qui était très inférieure à lui intellectuellement et donc elle n'a pas compris qu'il ne saisisse pas l'occasion de vivre pleinement une relation avec quelqu'un qui était à la fois son égal intellectuellement et bien sûr beaucoup plus épanouissant dans tous les domaines.
Et finalement, c'est lui qui a pris l'initiative de la rupture. Hein.
Donc ce qui s'est passé, c'est que Sibylla Leramo avait prévu qu'elle passerait un mois en vacances, enfin même tout l'été, en Corse. Donc Sibylla lui a écrit et la femme de Papini a intercepté les lettres. Il a commencé par mentir en disant que c'était une relation strictement intellectuelle et poétique, mais bien sûr la femme a très vite compris et Papini a donc décidé de rompre. Il a écrit une lettre très dure à Sibylla en Corse en lui disant « Toi, tu as tout pour toi, tu as d'immenses ressources intellectuelles, elle n'a que moi. » Et Sibylla a donc réagi avec une extrême violence et elle a imaginé d'écrire à la femme de Papini. Lettre qu'elle n'a bien sûr jamais envoyée à la femme de Papini.
Elle ne l'a jamais envoyée?
Non, ouais. Non, elle ne l'a jamais envoyée.
La question numéro 1, c'est l'enseignement du Christ, est-il valable?
Quelle idée vous faites-vous du Christ?
J'ai lu les évangiles, naturellement. Et puis Renan.
C'est tout?
Et puis... Ah oui, Histoire du Christ par Giovanni Papini.
Pas bien fameux, Papini.
Quand Papini, après toutes les promesses, après avoir été séduit et par le futurisme, avoir traversé la Première Guerre de manière assez dramatique, hein, tout de même, ensuite avoir flirté avec le fascisme, avoir assisté à la Seconde Guerre un peu désarmée, comprenant pas très bien les choses, hein, y a quand même là une sorte d'aveuglement qui est à certains égards inquiétant. Des scènes qui sont quasi cinématographiques, quand il est obligé de fuir à dos d'âne, pratiquement.
On
pense évidemment à d'autres fuites. Bon, il y a des simulacres. Et je veux dire que s'il y a peut-être un concept clé, c'est le concept de simulacre et de simulation. D'ailleurs, le diable, c'est peut-être celui qui simule. Bon, il y a quelque chose qui est de l'ordre du double. Une présence du double. Cette présence du double, c'est peut-être d'ailleurs l'opérateur conceptuel qu'on peut retrouver aussi bien dans dans son œuvre philosophique, il y a toujours quelque chose qui est en dessous, quelque chose qui habite, il y a une duplicité. Et jusqu'à, évidemment, la dimension du diable. Bon, qu'est-ce que c'est que le diable, sinon l'adversaire, hein. Satan, au sens propre, c'est l'adversaire. Le diable, c'est, en grec, hein, c'est celui qui désunit. C'est la désunion, c'est celui qui introduit justement la diversité irréductible. Et cette irréductibilité de la pensée, cette diversité du monde, cette qui est figure peut-être, métaphore du diable, ne trouvera sa résolution que dans la rédemption du diable. Alors là, on est chez Papini dans un aspect qui est un aspect qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre, parce que on est aux confins, comme chez Blois d'ailleurs, on est aux confins du luciférisme, on est aux confins de l'occultisme. Il y a un côté pittoresque, et quand on lit Papini, son texte sur le diable, il y a un goût du pittoresque, il y a un goût aussi du petit enfant qui a vécu dans un pays très chrétien et qui effraie tout le monde, enfin qui parle de choses qui sont sulfureuses, on effraie les jeunes filles, on effraie les prêtres, bon, on a l'impression d'être dans un film italien là-bas. Mais sinon, il y a cette image qui est une image très, très étonnante, qui est celle finalement du diable qui doit d'une certaine façon être sauvé. Dieu ne peut pas sauver Satan. Satan, c'est l'ange déchu, et d'ailleurs il donne à cette chute, il donne d'ailleurs des explications étonnantes.
La jalousie, voilà. L'orgueil.
Oui. Voilà, plus la jalousie que l'orgueil, dit-il, oui. Ce qui est moins grave.
Oui.
Bon. Et de quoi est-il jaloux? Il reprend un peu l'idée de Dante, il est jaloux de l'homme. Bon. Donc finalement, il y aurait de la part de Satan, il y aurait, du diable, il y aurait une sorte de pauvre ange, hein, je ne sais pas ce qu'il dit, un pauvre type, hein, qui s'est trouvé chassé parce qu'il était tout simplement jaloux. Bon. Quant à l'orgueil, ce qui est intéressant, c'est que l'orgueil, il dira que c'est aussi c'est un défaut qui a son énergie, sa motricité,
son importance.
Puisque c'est ce qui permet de créer. Bon. Donc il y a, c'est intéressant, puisque c'est ce qui permet de créer, il y a dans l'orgueil peut-être l'un des signes sataniques au cœur de l'art. Bon. Et il découvre, ça à mon avis c'est quelque chose de très important, parce qu'on le trouvera aussi chez Blois, etc., on le trouvera aussi chez Céline. Ce sont des écrivains qui découvrent que l'écriture a un rapport étroit avec la mort, avec le mal. Bon, ça c'est déjà Baudelaire, hein. C'est le maudit. Bon, et puis ça prendra des proportions considérables, où finalement l'écriture n'est confrontée qu'à cela, qu'au problème du mal, qu'au problème de la faille. Bon. Au fond, la parousie, chez Papini comme chez Blois, est une parousie luciférienne. N'oublions pas que Lucifer c'est le porte-lumière. C'est-à-dire que c'est pas simplement c'est la puissance d'en bas, c'est qu'il y a une figure sombre de Lucifer et une figure lumineuse de Lucifer. La figure sombre de Lucifer, c'est le diable, la figure lumineuse, c'est peut-être la femme. Quant à la manière d'essayer de penser le mal, aussi bien Blois que Papini éprouvent d'abord l'essentielle insuffisance de la philosophie pour penser le mal. L'essentielle insuffisance de la théologie aussi, pour rendre compte du mal. Lorsque Papini dit que la rédemption de Satan, du diable, c'est à l'homme de la réaliser, c'est pas simplement un argument formel, hein. C'est aussi, d'une certaine manière, un destin. Bon, c'est le drame, au sens propre, hein. Il y a une action, avec des confrontations, avec des luttes, avec des combats, avec des ruses. Hein. C'est pas la ruse de la raison, c'est la ruse du diable. Bon. Il y a des combats, et puis il y a une tragédie. Bon, cette tragédie, c'est à la fois d'être fin lecteur des signes, d'être capable de déchiffrer toute une symbolique, mais en même temps, la grammaire échappe. Je dirais que la grammaire précise échappe.
Là-dessus, revient aussi sur le livre central. Le livre central de la Bible, de ce point de vue du mal, bien entendu, et où généralement la théologie passe, je dirais, pudiquement et assez vite, qui est le livre de Job.
Michel Cazenave.
Et particulièrement dans le livre de Job, le prologue du livre de Job. c'est-à-dire cette scène tout à fait étonnante où, par rapport à la sainteté de Job, etc., on voit Dieu qui tient son conseil, en quelque sorte, et où il a colloque, il a dialogue, presque de puissance à puissance, et d'égal à égal, avec le diable qui lui dit, mais bien sûr, il suffira de mettre Job dans toutes les conditions suffisantes pour que il se rebelle contre toi, ou il te renie, il te mette en cause, et Dieu très sûr de lui. Bon, mais alors, qu'est-ce qui arrive là-dedans? C'est qu'il y a, je dirais, une espèce, finalement, de défi de gamin mal élevé, l'un vis-à-vis de l'autre. De dire, allez, chiche, on va voir. Bon, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, ce prologue du livre de Job, dans la théologie, généralement, on n'en parle jamais. Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez gênant à penser. Papini, genre, avec une espèce de jubilation, au contraire, il le prend en disant, mais c'est dans le texte sacré, il faut le réfléchir, là. Et donc, justement, penser quelle est cette sorte de proximité. Même si c'est dans le Paris, dans ce que le Moyen-Âge, on appelait le gab. Hein, voyons si. Ce qui va arriver, si nous faisons telle chose. Mais où donc il y a quand même cette sorte de, finalement, de rivalité entre Dieu et le diable, et en même temps cette familiarité que Dieu accepte de la part du diable, c'est-à-dire il l'a dans son conseil. Et où là, Papini se dit, mais il faut se poser la question, du coup, du rapport interne et réel de la divinité avec le mal. Et où on trouve cette réflexion qui va, je crois, dans le droit sens. Hein, c'est l'un et la conséquence nécessaire de l'autre, qui est la réflexion qu'il mène sur le Notre Père, où il prend cette phrase aussi tout à fait étonnante que pendant des siècles, dans les catéchismes de tous les pays, on a traduit d'une manière tellement édulcorée, qui était « Défends-nous de la tentation ».« Nenos inducas in tentationem ». Si on le traduit littéralement, qu'est-ce que ça veut dire en latin? Ça veut dire « lorsqu'on s'adresse à Notre Père Dieu », ça veut dire « ne nous conduit pas dans la tentation ». Ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui nous met dans la tentation. Bon, alors, le nouveau, la nouvelle version du Notre Père, postérieure à Papini, l'a traduit par « ne nous soumet pas à la tentation », tout en expliquant que le « ne nous soumet pas », ça voulait dire « ne nous laisse pas nous soumettre à la tentation que pourrait nous donner le diable », etc. Ce qui donne lieu à des circonvolutions théologiques un petit peu compliquées. Papini dit « moi, écoutez, je suis désolé, je prends le texte comme il est ». Le texte comme il est, c'est « Dieu, mon Père, ne me conduit pas dans la tentation ». C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que Dieu ne nous met pas en situation de nous faire tenter directement par le diable? Et où donc, de ce point de vue-là, le diable, comme dans le prologue à Job, devient d'une certaine façon l'acolyte de Dieu. Et il est celui par qui, je dirais, l'épreuve est passée de « est-ce que l'homme est capable de résister, oui ou non, à l'existence ontologique du mal ?» Alors, je dirais qu'évidemment, là, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être digéré ou ingéré par la théologie classique telle qu'elle était formée, où, bon, on sait très bien à quel point il a été condamné par l'Osservatore Romano.
Il n'a pas été... Le livre a été retiré des librairies, mais il n'a pas été mis à l'index, Papini n'a pas été excommunié, il a été plutôt considéré comme une extravagance littéraire.
Pas exactement. Pas exactement. Je veux dire, non, quand je dis il a été condamné, il n'a pas été condamné au sens mis à l'index, etc. Il a été condamné en tant que, par les articles qu'on écrit dessus, en disant, effectivement, c'est un livre qui ne tient pas du point de vue théologique. C'était en gros ça, la thèse. Et en effet, c'est là, ce sont les élucubrations, enfin, finalement, pour d'un littérateur un petit peu exalté. Mais, je dirais pourquoi, et c'est ça qui est intéressant, justement, dans la réaction qu'il y a eu devant son livre. C'est que, d'une certaine façon, on ne pouvait pas accepter ce qu'il disait, parce qu'effectivement, ça, c'était 2000 ans de théologie remise en cause, surtout telle qu'elle s'était formée à partir de Saint-Augustin, d'ailleurs, parce que si on allait voir dans les pères antérieurs de l'Église, éventuellement, on trouverait des choses qui sont assez parentes, et qu'en même temps, il était très difficile de le condamner, parce que les textes et les choses auxquelles il s'attaquait sont des choses absolument réelles. Ce sont des paroles du Christ ou ce sont des textes de la Bible. Alors on ne peut pas dire non plus que ces textes de la Bible n'existent pas. Et c'est là où je me dis que finalement, il y avait une sorte de principe stratégique, si on peut dire, de la part de l'Église, qui était de dire, effectivement, c'est bien plus simple si on dit que c'est un écrivain.
Je suis, pour tout dire en deux mots, un poète et un destructeur, un imaginatif et un sceptique, un lyrique et un cynique. Comment ces deux âmes peuvent se trouver ensemble et se trouver bien? Ce serait trop long à expliquer, mais vraiment, c'est là le fond de mon âme. Je suis par moments un pauvre sentimental qui s'émeut dans la nuit solitaire, dès que descend des persiennes fermées un simple accord de ballet viennois plaqué sur un piano. À d'autres moments, au contraire, je deviens le loup hobbésien dont les crocs ont besoin de mordre, de déchirer. Rien n'est sacré pour moi. Je veux renverser toute chose de haut en bas, retourner les croyances, montrer l'envers lépreux de toute façade imposante, les taches de tout soleil, les raisons mesquines de toute grandeur, les motifs honteux de toute institution vénérée, l'aveuglement des sages, l'infamie des moralistes, la malice des méchants, la douceur du mal, la grandeur du néant.
Finché fui affogato nella universale cultura teorica, rimasi uomo di casa e di città. Abbandonai la campagna, o se ci andai non la vidi, non la abbracciai, non le voli bene. Ma il suo bellissimo viso non si vede che dall'alto, lontano dai belletti calcinosi delle città.
Il écrivait très vite, c'était l'obligation de son métier de journaliste. Il a été, tout en écrivant très vite, l'un des grands maîtres de la prose d'art. Une prose en fait, très musicale, proche parfois du poème en prose, et nous en avons des exemples exceptionnels, même dans Un homme fini. Par moments, il y a une véritable envolée du style, non pas une recherche de la beauté de la phrase en elle-même, mais une musicalité qui est parfaitement orchestrée et qui témoigne d'une qualité exceptionnelle. On retrouve des qualités différentes, les qualités du polémiste, les qualités de l'intellectuel et de l'essayiste dans l'estroncature. Il y a ces articles aussi consacrés à la politique dans l'Acerbe. Ces mêmes qualités, on les retrouve dans l'histoire du Christ, qui n'a rien de géographique au sens le plus banal du terme. C'est un livre, celui-là aussi, de combat.
Ce dont il était le plus fier, c'était ses poésies, je crois.
C'était aussi sa faiblesse. Je ne pense pas que ses poèmes en vers soient ce qu'il a écrit de mieux.
Paolo Fabri.
C'est une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est l'importance qu'a pris d'une façon progressive pour ma génération et en général pour la critique littéraire d'un côté et de l'autre côté. Par la critique picturale, un homme comme Chirico, comme on dit en France, ou De Chirico, comme on dit en italien. Alors, la chose qui m'a frappé chez De Chirico, c'est la ressemblance extraordinaire, non seulement de propos écrits, De Chirico a beaucoup écrit, y compris un très bon roman, mais aussi des thèmes. C'est-à-dire dans des livres de Papini, les premiers livres, hein, disons de 1906 jusqu'à L'Uomo Finito, disons 1913-14, comme Tragico Quotidiano, Pilota cieco, Parole sangue, Bouffonnade, c'est-à-dire le tragique quotidien, le pilote aveugle, le parole et les sangs et les bouffonneries. On voit très bien une thématique futuriste, si on veut, où l'imagination fantastique est très semblable à celle de Chirico. Par exemple, une des choses, c'est le jeu avec les temps. L'idée qu'après a fasciné un type comme Borges. Borges dans le jour où on lui a demandé de rédiger une sorte d'encyclopédie, petite encyclopédie privée de la littérature universelle, il a mis des gens que nous ne soupçonnerions pas, mais parmi les Français, il a mis Léon Blois, et parmi les Italiens, il a mis Papini. Et il a mis, entre autres, un récit qui me paraît de Parole et sangue, qui me paraît très beau, et qui est les miroirs qui fuient, où toute la problématique, justement, de la duplicité, du double, et en même temps, du mouvement du double. Et c'est pas un double statique, c'est un double réversible tout le temps sur des spirales des mouvements du temps. On sont analysés avec beaucoup de profondeur. Alors, j'avoue que rétrospectivement, c'est ça qui m'intéresse, cette sorte de carrefour extraordinaire entre, d'un côté, les avant-gardes et futuristes, de l'autre côté, la capacité d'une culture cosmopolite de reprendre toute cette thématique et de la redéployer. Je crois que c'est ça plutôt le Papini qui va rester, un peu comme Palazzeschi ou d'autres auteurs italiens de l'époque.
Enfin, il a fallu peut-être qu'on republie quelques-uns de ses textes fantastiques qui sont des nouvelles du début de sa carrière littéraire et dont un recueil, par exemple, a été publié. ce qui n'est peut-être pas un hasard, par Franco Maria Ricci, dans une collection qui était dirigée par Borges.
Mais c'est vrai qu'il
y a le relais de Borges, ici, qui intervient.
Oui, puis qui a fait la préface et qui est très, très élogieuse.
C'est vrai.
Mais c'est des très beaux textes.
Oui, absolument. Absolument. Et ce sont de beaux textes, et ce sont des textes intéressants aussi, parce qu'ils représentent un cas relativement peu courant d'auteurs italiens, précisément, capables de faire du fantastique. Le fantastique n'est pas habituellement une dimension courante chez les auteurs italiens.
Mais Papini, il a quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a écrit de tout, des nouvelles, de la philosophie, de la poésie, il a fait un scénario de film, un livret d'opéra, des critiques, des romans, des nouvelles, enfin, on se demande à quoi il n'a pas touché. D'ailleurs, peut-être il aurait mieux fait d'être plus rigoureux.
C'est un peu ce que j'allais vous dire, oui. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je crois que les œuvres complètes, dans la présentation la plus récente, doivent représenter 10 gros volumes, ce qui n'est pas rien. Une des interrogations qu'on pourrait se poser à propos de lui, c'est ce qu'actuellement il représente. Depuis sa mort, il est mort en 56 ou 58.
56.
Oui. 56. Depuis sa mort, il me semble qu'il est tombé dans une sorte de trappe. Je ne sais pas si c'est le purgatoire habituel des écrivains après leur décès ou si c'est quelque chose de plus profond. Je crains que ça ne soit quelque chose d'un peu plus profond. Et j'ai été assez frappé de regarder, par exemple, dans une histoire de la littérature italienne qui est sortie il y a 2 ans chez Einaudi, dont l'auteur est un universitaire de Rome qui s'appelle Giulio Ferroni. Il y a un jugement sur Papini qui est féroce, enfin disant que c'est un écrivain qui, dans la presque totalité de ce qu'il a fait, est dépassé et qui incarne les plus mauvais côtés des intellectuels italiens.
Il y a pourtant un côté de Papini, moi, que je trouve tout à fait attachant, c'est ce côté enthousiaste, et même s'il n'est pas toujours réfléchi, même pas souvent réfléchi, mais cet élan qui habite tout ce qu'il écrit, et ça devrait pourtant un peu séduire, parce qu'on n'en a pas beaucoup, des écrits partent du cœur comme ça, sans aucun soupçon de prudence.
Oui, alors...
Vous n'êtes pas d'accord.
Oui et non. D'accord, si, indiscutablement, sur le caractère passionnément engagé dans ce qu'il fait, curieux, généreux, sûrement, ça c'est sûr. Avec ce correctif qui est qu'il prend des positions, par exemple... par rapport à l'idée de la guerre, par rapport à la perspective d'une intervention dans la guerre mondiale qui se dessinait, puis par la suite, quand la guerre a éclaté, pour une demande d'intervention de l'Italie auprès de la France et de l'Angleterre contre les anciens alliés de l'Italie, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie et la Prusse, il prend des positions qui sont alors absolument stupéfiantes de violence gratuite et qui donne véritablement froid dans le dos. Il y a un texte intitulé « Aimons la guerre » avec un grand point d'exclamation qui est un appel au meurtre d'un cynisme, d'une violence. C'est un texte monstrueux, vraiment monstrueux. Là, je crois qu'il avait un peu perdu les pédales. Ça lui arrivait, oui.
Mais alors, vous voyez, par exemple, dans les lettres aux hommes du pape Célestin VI, alors qu'il publie après la guerre en 1946, alors là, c'est le contraire, il prône un idéal de paix, de fraternité.
Alors là, moi, personnellement, j'ai toutes les peines du monde à lire ces textes-là. Je trouve que ça sonne creux, je trouve que ça fait un prophète vieillissant et sur le retour. Enfin, moi, j'y crois pas du tout, là, vous voyez, là, je marche pas.
Et alors comment ça se fait que Bernanos, qui publiait chez Plon, au Roseau d'Or, dans la même collection que Saint-Augustin fut traduit en 1930, n'ait jamais croisé Papini, que Simone Veil, qui est allée en Italie, n'ait jamais croisé Papini, que Claudel, Huysmans, c'était un peu tard, mais enfin, il était vraiment seul?
Je crois qu'il y a un trait commun à tous ces écrivains, à cette lignée, à cette cordillère, hein, qu'on pourrait faire remonter à Joseph de Maistre, finalement, c'est-à-dire une pensée qui est à la fois marquée par le mysticisme, parfois par des éléments d'ésotérisme, et en même temps par une volonté d'essayer de saisir le sens de l'histoire profane, en rapportant l'histoire profane au plan de la transcendance. Le point commun, c'est qu'ils sont en rupture avec toute espèce d'école, toute espèce de phénomène de groupe. Je dirais qu'ils naissent finalement sur la décomposition des écoles littéraires. Des écoles poétiques, par exemple, de la fin du 19e, on a vu ce que ça a donné en France. Bon, c'est-à-dire une sorte de mondanité littéraire, un phénomène de clan qui est très stérilisant. Donc il y a cette volonté, et il est remarquable, c'est que ces gens, d'une certaine manière, pensent ensemble, mais seuls. Il y a quelque chose de titanesque dans ces entreprises, cette confrontation d'hommes qui se croient d'une certaine façon élus, désignés. Cette élection, d'ailleurs, n'est pas une faveur. Au contraire, ils vivent cette élection comme étant un accablement. Ils ont été finalement choisis pour souffrir, pour témoigner. Et cette souffrance et ce témoignage ont quelque chose d'ineffable. Ils participent aussi du mystère. Et là, on revient au problème de Papini, philosophe. Comment peut-on être philosophe et en même temps être habité par l'ineffable ? Bon, c'est-à-dire que on n'est même pas au plan de la métaphysique, on est au plan de ce qui excède toute métaphysique, c'est-à-dire une présence cachée, hein, une présence en retrait de la transcendance.
Il y en a qui partent de l'Orient, il y en a qui partent de l'Occident, mais tous les voyageurs, que n'effraient ni les ténèbres épaisses de la nuit, ni les lumières éblouissantes des soleils, finissent par se rencontrer à mi-chemin, à l'ombre d'une croix usée par les baisers, ou sur le bord d'un puits où se mire au fond une seule étoile.
Ils ont en commun aussi d'être des convertis. C'est très commun, des convertis. La tradition chrétienne, au fond, est faite de conversion, à commencer par saint Paul. Bon. Mais ici, il me semble y avoir un élément très, 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 très essentiel, c'est que cette conversion, elle est précédée d'une vocation. C'est-à-dire que ces gens ont une vocation avant d'être convertis. Ils sont chrétiens avant de se convertir au christianisme. C'est remarquable chez tous. Papini, par exemple, il y a une anecdote où il est obligé de baptiser un enfant.
Dans la baignoire,
voilà,
oui.
Un enfant qui mourait, la mère est venue le chercher, il était dans une période d'athéisme profond. Bon, il va être obligé de procéder finalement au baptême.
Alors, oui, et puis il demande à un curé de voisin d'aller célébrer la messe dans un petit village, aussi dans une période d'athéisme.
Voilà, tout à fait. Et cette présence chrétienne constante, par exemple, dans le crépuscule des philosophes, qu'est-ce qui est remarquable ? C'est qu'il critique la philosophie allemande, au nom de quoi ? Pas au nom d'une exigence philosophique, mais toujours d'une certaine manière au nom du christianisme. Hegel en parle mal, Nietzsche n'a rien compris au Christ, la morale kantienne est une fausse morale chrétienne, c'est une morale formelle, etc.
C'est un état latin chrétien. Ouais.
Donc il y a une présence quasi dramatique, il y a une dramaturgie chrétienne. Il y a un ensemble, une mise en scène chrétienne qui précède la conversion. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire vibrer le siècle d'une affirmation testimoniale. Bon, c'est un témoignage qui va prendre la forme de l'art. Bon, l'art va être le lieu du témoignage essentiel de la présence. Ce qui est intéressant, c'est de montrer comment l'absence, c'est-à-dire comment le diable, d'une certaine manière, excédera l'écriture. C'est-à-dire comment l'écriture est travaillée comme son vide, comme sa limite, justement, par le mal.
C'était Giovanni Papini, une émission de Catherine Soulard avec Mario Fusco, François Lévy, François Livonnet, Michel Descodin, René de Secati, Michel Cazenave et Paolo Fabri. Texte lu par Éric Dufaille et Clotilde Pivin. Extrait du Pilote aveugle interprété par François Martouret. Extrait du film de Jean-Pierre Melville, Léon Morin prêtre. Les livres de Giovanni Papini ont été pour un bon nombre d'entre eux traduits et publiés en français après la guerre. Ils sont épuisés. On les trouvera, un peu par hasard, dans les librairies d'anciens. En revanche, la thèse de Janvier Lovrelio, Giovanni Papini, une odyssée intellectuelle entre Dieu et Satan, qui comporte 4 volumes et qui est à ce jour le seul travail sérieux et important à avoir été fait sur cet auteur, est encore disponible aux éditions Pierre Zec. Mixage, Yann Parentoen, Yves Baudry. Réalisation, Isabelle Huel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 mars 1994. Depuis lors, La vie de personne a été éditée chez Alia et Concerto Fantastique, toutes les nouvelles, aux éditions de l'Âge d'Homme.